Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, Babel Pongo Massimango.
Une, cette bonne nouvelle visant à désenclaver le pays. Tenez, 206 km de route vont être asphaltées de Mbanga au sud Kivu jusqu'à la rivière Lualaba dans l'Est Katanga. Débuté au finish de construire une autoroute moderne qui partira de Mbujimayi au Lualaba en passant par le sud Kivu. Kinshasa a signé hier 3 contrats relatifs à ses travaux avec des entreprises chinoises. Lutte contre Ebola, le collectif des journalistes de l'Ituri s'engage dans ce combat. Dans un point de presse hier à Bounia, il a appelé le professionnel des médias à la vigilance et au respect des mesures barrières pour stopper la propagation de la maladie. Dialogue entre Congolais d'hier et pensée penchée sur l'ambiance contrastée qui a prévalu hier à Kinshasa et dans d'autres parties du pays à la suite de l'appel de l'opposition à une journée ville morte. Vous suivrez la lecture des intervenants. Madame, Monsieur, bonjour. Le bitumage de 206 km de route de Mbanga au sud Kivu jusqu'à la rivière Lualaba dans l'Est Katanga, c'est pour bientôt. C'est dans cette optique que le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza, a signé 3 contrats de travaux majeurs avec 3 géants chinois du bâtiment et travaux publics. C'était hier mercredi à Kinshasa. Ces accords marquent donc le coup d'envoi de ces travaux divisés en 2 lots routiers d'environ 100 km chacun, ainsi que la construction d'un pont de 714 mètres sur la rivière Lualaba. D'autres précisions avec Blaise Ndongala.
Ces travaux viennent s'ajouter aux 280 km déjà en cours d'exécution entre Mbujimayi, Kabinda et Mbanga, portant les réseaux modernisés à un total impressionnant de 480 km. Ces projets concrétisent ainsi la vision des connectivités nationales visant à doter le pays de sa toute première véritable autoroute moderne en 2x2 voies reliant la ville de Mbujimayi à celle de Bukavu. Le ministre John Banza n'a pas caché sa satisfaction face à cette avancée.
C'est pour dire que le président de la République est en train de matérialiser la vision de la connectivité totale de notre pays, mais pas que la construction de routes schématives, mais pour par des routes modernes. Et la RN2, c'est l'exemple parfait dans cette approche-là.
Il s'est également montré très fermement quant au suivi du chantier en exigeant des ouvrages de qualité dans le respect des délais. De son côté, le coordonnateur de la cellule infrastructure, Billy Chibambe, a précisé que l'autre grande attraction de ces projets est la construction d'un pont de 714 mètres sur la rivière Lualaba. Les coûts obtenus autour de 150 millions de dollars américains pour les routes et 37 millions pour les ponts sont extrêmement compétitifs en vue des standards exigés, a souligné ses coordonnateurs. Le démarrage effectif de ces travaux est fixé au mois d'octobre 2026.
Parlons à présent des travaux de réhabilitation d'environ 65 km de route financés par la Banque mondiale à travers le projet Star RDC. La phase de mobilisation communautaire est désormais lancée dans les territoires de Mahagui en Ituri. Près de 2000 emplois temporaires sont annoncés. Avant le lancement des 10 travaux, les communautés bénéficiaires ont été appelées mardi à se mobiliser pour accompagner la mise en œuvre du programme qui verra à terme des dizaines de villages désenclavés. Jean-Claude Lokidile.
Les responsables en Ituri du projet Star RDC ont réuni les autorités locales et les représentants des communautés concernées afin de préparer le démarrage des travaux au courant de ce mois de réhabilitation de 2 axes routiers stratégiques. Le premier relie Bala Andrélé en passant par Ambegu, le second par Dessourouba jusqu'à Ndawé en passant par Tedeja, Ramogi, Ezi. L'objectif est de sensibiliser les populations au processus d'identification et d'enregistrement des travailleurs qui seront recrutés localement. Le projet entend améliorer durablement l'état de ces routes tout en créant des opportunités économiques pour les communautés riveraines. Steve Senguidar, le responsable provincial du projet Star RDC en Ituri.
Et ces 2 axes routiers drainent plus ou moins 35 grands villages pour un volume de plus ou moins 2000 travailleurs, ce qui va apporter des revenus supplémentaires à ces communautés affectées par les conflits et tout ce que la province a connu, afin de leur permettre de commencer un nouveau départ, étant donné que le projet vient soutenir les relèvements des communautés en faveur de notre population vulnérable en province de l'Ituri.
Les travaux devraient être lancés dans les prochains jours à l'issue des activités de sensibilisation dans les villages concernés. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Kapi.
Santé, le collectif des journalistes de l'Ituri, CJI, appelle les professionnels des médias à la vigilance et au respect des mesures barrières pour stopper la propagation de la maladie à virus Ebola. Au cours d'un point de presse hier à Bounia, cette structure a rappelé à ses membres qui font partie des personnes les plus exposées à la maladie au regard de leur métier de collecte du traitement des informations. Le CJI recommande ainsi aux chevaliers de la plume d'être prudents tout en insistant sur le respect strict des consignes sanitaires pour leur protection. Rachidi Koudra, président du collectif, explique au micro de Martial Kizabiamongo.
Dans ces contextes préoccupants, les journalistes, caméramens, techniciens et autres personnels des médias restent fortement exposés au risque de contamination à raison de leur présence permanente sur les terrains dans le cadre de la collecte et du traitement et de la diffusion des informations liées à cette épidémie. Le collectif des journalistes de l'Ituri rappelle que les professionnels des médias jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation de la population et l'accompagnement des efforts de riposte. Cependant, cette mission ne doit pas se faire au détriment de leur propre sécurité sanitaire. À cet effet, le CGI appelle tous les acteurs des médias au respect strict des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires et les équipes de riposte, notamment le lavage régulier des mains avec du savon ou une solution chlorée, le respect de la distanciation physique d'au moins 1 mètre, l'interdiction des accolades et contacts physiques inutiles.
Et puis, cette réaction à présent du sénateur Jean Bamanissa Saïdi, gouverneur honoraire de l'ex-Grande Orientale sur la maladie à virus Ebola. Pour lui, face à la menace de cette maladie, la vigilance et la responsabilité restent nos meilleurs alliés. Il a lancé ce message à la population de cette partie du pays cette semaine. Il exhorte à respecter scrupuleusement les mesures de lutte contre cette épidémie. Dans son message, le sénateur appelle la population à s'abstenir de toute forme d'agression, que ce soit contre le personnel de santé ou contre les infrastructures sanitaires. Ces propos sélectionnés par Jacques Mokonkole.
Des personnes touchées par ce virus meurent en grand nombre lorsque les protocoles sanitaires ne sont pas respectés. Les virus existent et celui-ci circule entre humains, animaux et dans l'environnement. Protégeons-nous collectivement. Les mesures barrières essentielles à appliquer immédiatement sont de ne toucher ni ne consommer les animaux de la forêt, les viandes de brousse, surtout les animaux malades ou morts. Prendre votre température régulièrement dès les premiers signes, fièvre, maux de tête, fatigue, vomissement, diarrhée, saignement, douleur musculaire, signaler immédiatement au service sanitaire le plus proche et isoler la personne. Isoler les malades et respecter les consignes des équipes de santé. Lavez-vous les mains fréquemment avec de l'eau et du savon ou un désinfectant, surtout après tout contact et avant de manger. Évitons les poignées de main. Évitons tout contact direct avec le fluide corporel des malades, sueur, vomissure, sel, sang. Respectons les enterrements sécurisés et dignes. Ne touchez pas les corps des personnes décédées des maladies suspectes. Les équipes formées s'en occupent dans le respect des traditions autant que possible, tout en protégeant les vivants. Ne détruisez pas les équipes sanitaires, ni les centres de traitement, cela ne vaut rien. Au final, c'est notre communauté qui en souffre le plus.
Et puis, santé toujours, 40 participants issus des organisations de la société civile s'engagent dans la riposte contre le VIH au SIDA et prennent part à une session de formation axée sur des notions de prévention contre cette maladie dans la ville de Bandundu. Cette formation est organisée par le secrétariat exécutif provincial de l'Alliance multisectorielle de lutte contre le VIH-SIDA en République démocratique du Congo. Le but est de contribuer à la réduction de la chaîne de transmission au sein de la communauté. Elle entend également renforcer les connaissances des acteurs communautaires sur la prévention du VIH-SIDA, ainsi que sur les services de santé sexuelle et reproductive. Dr Juliane Omeya, l'une des facilitatrices, revient sur l'importance de cette formation. Ses propos sont recueillis par Jean-Claude Tangamou, correspondant de la radio-télévision Bandundu Développement.
Il est vraiment impérieux qu'on forme les organisations de société civile parce que c'est eux qui sont en contact avec la population. Aujourd'hui, il y a les premiers volets de 95 du VIH où on doit dépister 95% de la population. Pour dépister ces gens-là, ils doivent être sensibilisés. La société civile nous aide à sensibiliser la population partout où ils se trouvent, où nous, les prestataires de santé qui restons dans nos cabinets médicaux, nous ne parvenons pas à arriver là-bas. Le VIH c'est prévenir d'abord. Et c'est eux qui nous léguent nos responsabilités dans les activités de sensibilisation et de la prévention, parce qu'ils touchent toutes les couches jusqu'au fin fond. Ils doivent avoir la matière claire, nette. Quand ils partent sur terrain, ils sensibilisent, ils nous apportent ce qu'ils ont accepté de se faire dépister à l'hôpital. On les dépiste. Ceux qui sont positifs, on les prend en charge tôt avec les ARV. Ça donne une meilleure prise en charge. Les OAC nous aident aussi à éviter les discriminations par rapport à ceux qui sont positifs. Les OAC sont formés par rapport à ça.
Notez qu'à l'issue de cette formation, les acteurs communautaires seront déployés sur le terrain pour sensibiliser la population. Et selon les statistiques disponibles, la province du Kwilu compte pour l'année 2026 un total de 7023 personnes vivant avec le VIH-SIDA enregistrées. Une coalition politique dénommée Article 5 ou C5 donne des exigences quelques jours seulement après sa création à Lubumbashi. Pas de référendum sans le Nord et le Sud Kivu, dit-elle. Il faut que le gouvernement rassure que les populations de ces deux provinces vont participer au scrutin. Propos de l'initiateur de cette nouvelle structure des jeunes au cours d'une conférence de presse hier dans la capitale du Cuivre. C5 qui dit privilégier l'intérêt général indique que dans l'environnement politique congolais, dominé par le débat sur le changement ou non de la constitution, le peuple doit trancher sans cependant exclure des habitants qui vivent sous occupation rebelle. Des propos de Caleb Banza, recueillis par Paulin Mounaga.
Le référendum ne doit pas être considéré comme un mécanisme où on nous dépouille de notre force. Le référendum ne doit pas faire peur à la jeunesse. Le référendum devrait faire peur aux différents agendas des politiciens. Parce que les agendas des politiciens ne sont pas les agendas de la jeunesse. Les jeunes pensent à leur avenir. Le référendum est le meilleur moyen pour la jeunesse de décevoir certains politiciens. Et il y aura des déçus, que ce soit pour le changement ou pour le maintien de l'actuelle constitution. Mais avant d'aller à ce référendum, c'est là le préalable et les exigences que nous donnons. Qu'on rassure que nos frères du Nord et du Sud Kivu soient aussi capables de participer à ce référendum. Et ça, c'est un devoir de l'État et du gouvernement en place. Puisqu'ils ont droit de participer au débat. Et ce débat doit être inclusif et que l'on respecte la position de la jeunesse. L'opposition parle au nom du peuple, comme si à l'unanimité, le peuple avait donné un mandat à l'opposition. Le C4 parle au nom du peuple, comme si à l'unanimité, le peuple avait donné le mandat au C4. Mais quelle est la véritable position du peuple? Et comment le savoir? Ce n'est que par la voie référendaire.
Éducation, les finalistes du primaire ont débuté aujourd'hui leur examen de fin de cycle INAFEP. Mais il y a ce problème qui hante l'organisation des épreuves, de ces épreuves certificatives nationales dans le Nord, le Sud Kivu et l'Ituri. C'est que les prestataires chargés de la surveillance et de la correction grincent les dents et dénoncent des retards de paiement. Malgré l'engagement du gouvernement central depuis 2023 de prendre en charge les frais d'organisation dans les 9 provinces éducationnelles touchées par la crise sécuritaire, la situation reste préoccupante. Et mardi dernier, le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1, actuellement en mission à Kinshasa, a annoncé le paiement des arriérés de l'année passée. Écoutez Luc Baouiza au micro de Rosalie Zawadi.
L'année dernière, la liquidation de fonds a été faite à hauteur de 49%. Et le gouvernement vient de liquider ces fonds, les 51% restants, pour que les prestataires puissent entrer en possession de leurs dus. Quant aux épreuves de cette année, le processus est déjà très avancé, c'est-à-dire dans les jours qui viennent, les prestataires pourront également bénéficier de leur dû, puisque le chef de l'État avait déjà pris cet engagement, il y a de cela maintenant 3 années consécutives, pour que les provinces déjà tellement sinistrées ne puissent plus encore débourser un rond pour la prise en charge des évaluations certificatives nationales, puisque les parents sont démunis. L'État est venu à la rescousse de la communauté sinistrée pour permettre à ces enfants de pouvoir passer les évaluations certificatives nationales dans les mêmes conditions que leurs condisciples des autres provinces.
Et pourtant, sur le terrain, les syndicats affirment ne pas avoir été informés de ces paiements. L'on rappelle que l'an dernier, seule une prime sur 4 avait été versée. Mais malgré tout, les enseignants disent accepter de superviser les examens par patriotisme. Ils espèrent que le gouvernement respectera ses engagements dans un délai raisonnable. La journée de l'enfant africain approche à grands pas, c'est le 16 juin prochain. Cette date commémore le massacre de centaines d'enfants lors du soulèvement de Soweto en Afrique du Sud en 1976. En prévision de cette journée, les enfants de certains établissements scolaires de Kinshasa sont déjà sensibilisés depuis le 1er juin dernier, notamment sur leurs droits. C'est par exemple le droit de vivre dans un environnement et encore sain, tout en gardant les valeurs culturelles congolaises. D'autres étaient avec Dina Alumingu, présidente de l'ONG Monde des Enfants, joint par Jean Gandou.
Nous devons parler clairement aux enfants des sujets qui leur intéressent et cela a de l'impact à leur vie. Laisser les enfants comme ça apprendre dans la rue ou sur les réseaux sociaux devient un sérieux problème aujourd'hui. Alors, dans cette campagne, nous avons prévu parler de l'hygiène, l'assainissement ainsi que la culture africaine ainsi que congolaise. Pourquoi nous devons parler de cela? Nous devons parler de l'hygiène chez les enfants parce que les enfants, en grandissant, il y a des phénomènes qu'ils découvrent dans leur corps, il y a des choses qui se développent. Ils doivent apprendre comment prendre soin d'eux, comment gérer leur corps. Ça, c'est très important. Pour ne pas tomber dans le risque, comme nous voyons, il y a des filles mères ou il y a des garçons qui engrossent les filles parce qu'ils ne savent pas se gérer à un certain âge. Nous devons leur parler clairement pour éviter cela. Et aussi, nous devons parler de la culture congolaise ou africaine parce que nous sommes en train d'évoluer dans un monde où il y a plusieurs réalités, il y a la technologie par-ci, par-là, mais notre culture, c'est nos valeurs, ce sont nos richesses en fait que nous devons conserver, nous ne devons pas négliger.
Actualité internationale.
Guerre au Moyen-Orient. Dans une déclaration commune livrée à la nuit dernière, Israël et le Liban sont convenus mercredi à l'issue de deux jours de pourparlers à Washington de conditionner un cessez-le-feu à un arrêt complet des tirs de Hezbollah et de créer des zones pilotes sous contrôle de l'armée libanaise. Quelques heures plus tard, plusieurs frappes israéliennes se sont abattues sur le sud du Liban, annoncé en médias d'État libanais.
L'invité.
La capitale congolaise a connu une journée particulière hier, marquée par l'appel de l'opposition observant une ville morte pour protester contre tout changement de la constitution. Dans les rues, l'ambiance était contrastée, certaines artères étaient presque désertes, tandis que quelques habitants ont tout de même choisi de sortir, d'autres ont préféré rester chez eux pour suivre l'évolution de la situation. Les intervenants dans Dialogue entre Congolais ont évalué cette journée à Kinshasa, bien sûr, et dans certaines villes de la RDC. Je vous propose de le suivre au micro de Guy Maté.
Prince Pengue, vous êtes président du parti politique ADD Congo et porte-parole de la coalition Lamuka. Quelle évaluation vous faites de cette journée à Kinshasa ainsi que dans certaines villes de la RDC?
La ville morte a connu un succès à 80%, malgré les intimidations de Jean-Pierre Yaou, qui a demandé à tous les fonctionnaires et faire un travail suspendre et sanctionné. Malgré les intimidations du vice-ministre de l'Intérieur qui a intimidé les Congolais, malgré les harcèles des prix de presse qui a pris des mégaphones le soir et suffisé pour aider les Congolais avec des fanfares pour aller au travail, malgré les intimidations du gouverneur et de la police qui ont obligé les magasins à ouvrir jusqu'à 13h, mais tant que la population congolaise est consciente de sa responsabilité, consciente que l'avenir est en jeu, a respecté les consignes de l'opposition et est restée à la maison.
Merci, Meshak Bandefou. Vous êtes professeur à la faculté des droits de l'université de Kinshasa. Vous êtes député national élu de Kazumba au Kasai Central et aussi président du groupe parlementaire AACPG à l'Assemblée nationale. Vous également, comment vous évaluez cette journée du 3 juin à Kinshasa et à travers la RDC?
Je viens de suivre M. Prince Pengue qui, selon lui, estime que cette prétendue ville morte a été une grande réussite à 80%, tantôt une fois de 89%. Moi, je pense que c'était une ville vivante parce que toutes les activités ont eu lieu partout. Je commence par moi-même. J'étais à l'université de Kinshasa le matin. J'ai enseigné les avant-midi. À 13h, j'ai terminé. Et tous les étudiants étaient sur le site. Les activités étaient comme d'habitude. Déjà, à après-midi, l'Assemblée nationale avait convoqué une plénière. Nous y étions, la participation massive de tous les honorables députés. Lors du jour, on a débattu sur les questions qui ont été inscrites. Et ce soir, chacun est libre, il n'y a pas d'incident, il n'y avait pas de ville morte. Monsieur Prince Epengue, vous posez la question, il vous parle de Kimbuta. Voilà, nos amis qui ont été à la Tchangou, tout était normal. Et aujourd'hui, nous dire, voilà, 96%. Je rappelle ici que c'était l'échec total, tout était normal.
Merci, Alidor Chibanda. Vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Kinshasa et enseignant à l'Université pédagogique nationale IPEN. Vous vous intéressez à l'État et à la démocratie. C'est quoi votre évaluation de cette journée du 3 juin 2026 à Kinshasa, ainsi que dans certaines villes de la RDC?
Nous devons reconnaître qu'il y a eu quand même un mot d'ordre de l'opposition qui a demandé à la population de rester à la maison. De ce mot d'ordre, en nous réveillant, nous avons constaté que l'ambiance des Kinois n'était pas la même. Et au regard de ce que vous avez dit, nous constatons que toute la République était en alerte et que le pouvoir s'est déployé pour déjouer ce que l'opposition avait demandé à la population. Est-ce qu'il faut dire que l'opposition a réussi son coup? Est-ce qu'il faut dire que le pouvoir a continué à avoir le contrôle total en empêchant le coup de l'opposition de réussir? Je dirais que la réponse pourrait, à mon niveau, être mitigée. Il nous est difficile aujourd'hui de dire effectivement que c'est par conviction, c'est par refus d'accompagner le pouvoir dans sa stratégie de changement ou de modification de la constitution que l'ambiance des Kinois était maussade, n'était pas au rythme habituel. Et pourquoi c'est arrivé? Il ne faut pas dire qu'il n'y a rien eu.
Il y a eu quelque chose.
Et ce quelque chose-là, c'est quoi? J'appelle le pouvoir à bien réfléchir. Je suis politologue de formation. C'est un appel à revisiter les stratégies.
Un c'est point fin à ce journal préparé par Lievin Bouinga, mis en onde par Jean-Claude Siala. Merci de votre attention. Passez une excellente journée.